voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Dans cette émission, nous parlerons d'arbres avec Alain Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. Alain prône le changement des méthodes de l'agriculture industrielle en s'appuyant sur l'incroyable potentiel des arbres. Alain Canet avec moi, donc là on est, peut-être commencer par planter le décor, tiens, où est-ce qu'on est?
On est dans un parc, on est tout près des arbres, on entend le doux bruit dans les feuilles des érables, on est dans le parc de l'hôtel du département, du Gers, donc à Auch, et nous avons nos locaux, on partage des locaux ici avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, les agriculteurs bio et puis d'autres services autour de nos thématiques de l'agriculture, de l'agronomie, je crois que ça s'appelle encore le développement durable, de l'écologie et de l'agronomie.
Et l'association s'appelle Arbres et Paysages.
Arbres et Paysages 32, parce qu'il y en a d'autres, hein. On est 30 structures en France, il y en a une dizaine qui s'appelle Arbres et Paysages dans d'autres départements. Donc une association départementale montée par des agriculteurs et toujours pilotée puisqu'il y a un conseil d'administration d'agriculteurs. Hein, sur 12 membres, 11 sont agriculteurs représentant toutes les agricultures dont le sujet, l'objet unique, c'est l'arbre champêtre. Donc l'agroforesterie, depuis 1990, on fait du conseil et de l'appui technique pour gérer, entretenir et surtout planter des arbres hors la forêt parce que les arbres hors la forêt, ils sont aussi importants que dans la forêt. On en manque cruellement. En France, en Europe et partout dans le monde, on manque beaucoup, beaucoup d'arbres hors forêt. Donc notre boulot, beaucoup d'animation, de sensibilisation, de formation, bon, un peu d'expertise et d'ingénierie de projet pour remettre l'arbre champêtre à sa juste place dans la tête des gens et dans les champs et au final dans les assiettes parce qu'aujourd'hui, un produit agroforestier, il a beaucoup plus de valeur qu'un produit qui ne l'est pas. Une pomme de terre bio agroforestière, elle a 8 fois plus de valeur qu'une pomme de terre bio toute seule. Donc il faut le faire.
Aide-nous à comprendre pourquoi on manque d'arbres, il faut planter des arbres.
On manque d'arbres parce que il suffit de regarder la couleur des rivières. On a eu un printemps catastrophique, je sais pas, ça vous a peut-être pas échappé, où les rivières sont chargées de boue. Donc le GIEC nous avait dit que le climat serait perturbé, dérangé. Sans parler de réchauffement, on parle de changement. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des à-coups difficiles, durs, du très chaud, du très froid, des grands coups de vent. Et nos sols nus, nos sols avec peu de haies, peu d'arbres, ils partent. Ils partent à la rivière et c'est la fertilité, c'est le capital du sol et de l'agriculteur qui s'en vont. Et l'idée de cette agroforesterie, c'est la dispersion des arbres dans le territoire. La forme que vous connaissez bien et qui a disparu en partie lors du remembrement, c'est le bocage. S'il y avait du bocage, c'était pour protéger les cultures, c'était pour protéger les animaux, pour marquer les délimitations, mais aussi et surtout pour produire de la biomasse, pour produire des fruits, pour produire des baies, pour produire de la biodiversité, des insectes, des papillons, enfin tout un tas de bestioles. Hein. On travaille évidemment sur le végétal, mais aussi sur les animaux au sens large. Donc, un champ qui est trop grand, de quelque agriculture qu'il soit, un champ qui est trop grand, il est soumis au vent, il est soumis aux intempéries, il est insolé. Il est en précarité énergétique importante, donc notre job c'est de montrer que une pomme de terre qui est protégée des vents dominants, elle est moins stressée, elle consomme moins d'énergie, elle a moins de pathologies, elle est en règle générale un peu plus belle. Le sol est vivant parce qu'il est protégé par ses arbres, puis des techniques de couverture végétale. Hein. L'idée c'est d'associer tous les bienfaits de cette agronomie dynamique dont la médecine est la plante, hein, la médecine de la terre, c'est la plante. Et puis juste à côté de ma pomme de terre, je récolte des pommes. Et puis comme mon arbre, c'est un arbre têtard, je récolte du bois broyé qui me sert de fertilité. Et comme mon arbre broyé, c'est un arbre têtard, il est riche d'auxiliaires qui vont peut-être m'aider à réguler les doryphores et autres attaques sur mes pommes de terre. Donc quand on remet tout ça dans ce petit écosystème, certains parlent de permaculture, hein, la permaculture c'est la forme d'agroforesterie pour le maraîchage. Nous on fait de l'agroforesterie pour les veaux, les vaches, les cochons, les poules, les canards, le blé, la vigne, le maraîchage, les betteraves, le colza et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est la logique et le principe qui vous sont chers et qui nous sont chers, ce sont ceux de la modèle de la forêt. Et comme dirait mon humble ami Ernst Zürcher, il dit tout simplement, partout où elle peut, la terre appelle des arbres. Et nous, on doit répondre à cet appel du sol qui, pour le coup, est tout sauf décroissant. La question du sol, ça ne doit jamais se reposer, ça ne doit jamais être nu, ça doit toujours faire pousser des plantes grandes, les plus grandes possibles, et ça doit digérer tout ça. La forêt, elle nous dit quoi ? La forêt, elle nous dit, avec rien, je fais tout. L'érable qui est juste à côté de nous, le chêne, le frêne ici, avec rien, uniquement de la photosynthèse et un peu d'eau, ils font de la biodiversité, ils font de la biomasse, des microclimats, ils stockent de l'eau, ils font de l'ombrage pour les gosses qui viennent y jouer, ils nourrissent des oiseaux, ils nourrissent des pollinisateurs, ils sont bourrés de propolis, de miella, de pollen, etc. etc. Donc notre modeste travail, je dis bien modeste, hein, parce que quand on est dans le monde de l'arbre, on en apprend vraiment tous les jours. Hein, c'est le règne animal, on en voit les limites, le règne végétal, c'est un petit peu difficile, un peu plus difficile en tout cas. Notre boulot, ben, c'est de rééquiper, de réarbrer les territoires. Quoi qu'on fasse comme agriculture, on a intérêt de faire avec les arbres, parce que l'arbre, outil de production de premier plan. C'est lui qui amortit, il a la faculté d'amortir le climat, et en amortissant le choc climatique, il produit tout ce dont on vient de parler en même temps. C'est-à-dire qu'il protège et il produit en même temps. On le savait, mais hors la forêt, il est temps de le remettre dans les têtes et dans les consciences, parce qu'on le voit encore un peu trop comme soit un élément gêneur. Oui, mais la haie m'embête, il pousse rien au pied. Oui, c'est pas grave, mais au milieu du champ, il pousse beaucoup plus. Et soit comme un élément de décor. Donc notre boulot, nous, c'est pas un boulot toujours simple, dire prenez l'arbre, vous prenez la composante eau, la composante biodiversité, la composante sol, la composante paysage, la composante climat. Prenons toutes ces composantes-là, mettons l'arbre au centre et regardons ce qu'il peut nous apporter.
Et j'aimerais peut-être que tu nous fasses un petit cours d'histoire. Tu parlais du remembrement. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment est-ce qu'on a commencé à battre les arbres et à les déconsidérer dans le paysage qui nous environne ?
On les a déconsidérés pour plein de raisons. Mais pour faire simple et efficace, fallait produire. C'est vrai, on crevait de faim. Exode rural et arrivée du pétrole. Ça fait trois raisons de couper les arbres. Plus personne dans les campagnes. On appuie sur un bouton, il y a un tracteur qui démarre. On appuie sur un autre bouton, on se chauffe. Jusque-là, il fallait mettre deux vieux tous les hivers à couper des branches et à fendre du bois. Et on a des haies et des parcelles qui font un demi, un hectare. Et là, on nous demande de faire des montagnes de blé. Je ne porte pas de jugement critique. Hein. Je dis la situation, elle est celle-ci. Donc, on n'a plus besoin de bois pour chauffer. Les vieux ne sont plus là. Les jeunes sont partis à l'usine. Il y en a qui sont parvenus de la guerre, il ne faut pas oublier de le dire. Hein. Donc, il n'y a plus grand monde. Donc, on fait des parcelles de 5-10 hectares, on laboure tout ça, on fout de l'engrais et ça pousse. Sauf que, résultat, ben, 45 ans après, donc ça c'est le remembrement, des aides énormes pour créer des nouveaux chemins, pour faire des fossés, des talus, pour araser les arbres, etc. etc. Une espèce de modernité. Hein, la haie, le bocage, c'est le paysan, son bâton, son chien, ses vaches. Les agriculteurs ont encore essayé. Un peu le cas encore, sont parfois pris pour ce qui s'appelait communément des bouseux, des pecnos, de celui qui restait à la ferme, c'est celui qui pouvait. Donc il y avait ce besoin de modernité, sauf qu'en enlevant tous les arbres, ben, derrière on prend tout d'un coup, ben, il y a des attaques invraisemblables de pucerons, ben oui, il n'y a plus les coccinelles qui étaient dans les haies, il y a des gros coups de vent qui couchent les céréales et on voit des champs entiers de champs qui sont versés, qui sont difficiles à récolter, il y a des coulées de boue, de la terre qui s'en va, des animaux qui font du lait, qui sont stressés, qui ont beaucoup de pathologies, donc qui ont besoin d'une médication importante, etc. Donc une fois qu'on enlève les arbres, au fur et à mesure, plus on avance, plus on se rend compte de leur utilité. Donc nous on arrive en 1985 où ça arrache encore, hein, il y en a qui étaient en avance puis d'autres en retard sur les remembrements, arbres et paysages, enfin les agriculteurs, y compris, important de le dire puisqu'on fait de l'histoire, des agriculteurs qui étaient maintenant, certains sont vieux, d'autres décédés, mais des membres d'Arbres et Paysages 32 étaient des gens qui avaient arraché des haies pour moitié, parce qu'ils ont arraché, alors on pourrait dire, putain, c'est con. Voilà, ça, c'est ce qu'on a un peu, on entend un peu trop des agriculteurs. Non, non, ils avaient arraché, mais ils ont fait ce schéma, cette démarche pour dire, mais on va replanter parce qu'on voit bien la connerie, notamment les éleveurs, hein, mais pas que. On voit bien la grosse connerie que l'on a faite. Pour rien vous cacher, on a quand même aujourd'hui encore un peu de mal à inverser la tendance, hein, parce qu'il y a une prise de conscience générale. Une accélération monumentale hein, sur cette histoire ben, d'agroécologie, puisque c'est comme ça qu'elle est plutôt... Moi, je la trouve assez bien définie, l'agroécologie, quand je la lis dans le code rural, elle est claire, nette et précise. Et si je la traduis, l'agroécologie, ben, je vois qu'un sol, ça doit toujours être couvert, le moins pulvérisé possible, jamais ou presque ou si peu être travaillé, et ça doit être, somme toute, arboré avec ces fameux arbres dispersés. Donc,
ça, c'est le terme d'agroécologie hein, qui aujourd'hui est rentré dans le dictionnaire.
Oui, qui est rentré dans le dictionnaire, dans le code rural, dans la loi cadre, dans l'enseignement agricole. Hein. Il y a eu un ministre, on peut le dire, courageux, Le Foll, qui a été très critiqué pour plein de raisons. Sur cette affaire-là, il n'a pas dérogé. Il a bien dit l'agroécologie, c'est une agriculture qui produit et qui protège, qui préserve les écosystèmes. Et l'agroécologie, le conventionnel en a besoin, mais la bio en a tout autant besoin. Un sol qui est nu, aujourd'hui en France, les sols en moyenne ils sont nus 130 jours par an, c'est catastrophique. Un sol qui est travaillé, qui est nu 130 jours par an, il se dégrade à vitesse grand V. Et encore une fois, le résultat, c'est l'activité biologique qui disparaît et c'est les masses de terre, de matière organique que l'on retrouve dans les rivières. Donc oui, l'agroécologie, les deux piliers, c'est bien l'agroforesterie et les couverts végétaux. La couverture permanente, telle la prairie, ça permet de relativiser aussi. L'agroforesterie, c'est pas un miracle.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
J'aimerais que tu me redéfinisses ce que c'est qu'un arbre.
L'arbre, ben on peut prendre la définition de Francis Allais, qui est la meilleure. C'est un truc, quand tu rentres en bagnole dedans, ça casse la voiture. Donc c'est assez dur, c'est assez efficace. Une autre définition, c'est qu'avec rien, ça fait tout. Voilà, hein, ça, avec une graine qui pèse 3 grammes, 15 ans après, on a 10 tonnes. On a 10 tonnes de carbone stocké, d'eau créée, de biodiversité produite. Non, définir un arbre, je ne saurais pas le faire. Non, c'est une plante géante qui produit de la lignine et qui est indispensable à la fertilité des sols. Hein. Et c'est ça qui nous préoccupe vraiment. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément vu, et notamment en agriculture, que... Je serais tenté de dire, chacun à son rythme et à son échelle, mais je vois pas comment on peut faire de l'agriculture sans arbres. À un moment donné, on veut avoir une protection climatique, on veut avoir des champs mycorhiziens. Alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais les mycorhizes sont les champignons qui nourrissent les plantes. Et les arbres sont mycorhizés, et la plupart des cultures le sont aussi. Donc si on n'a pas ces champignons dans le sol, les plantes sont carencées. C'est ce qu'on trouve beaucoup en agriculture d'ailleurs. Et... Donc si on veut lutter contre le vent, si on veut des auxiliaires de culture, si on veut des oiseaux pour réguler des attaques, des abeilles, enfin des pollinisateurs, etc. Si on veut des sols fertiles, parce que les humus stables, enfin, la stabilité, la fertilité du sol, elle vient beaucoup de la forêt. J'insiste, hein, ici on est dans un parc, il y a du gazon, si on arrête de tondre ce gazon pendant 3 ans, il va pousser des arbres. C'est-à-dire que là il y a des frênes, il y a des chênes, il y a des érables. Inéluctablement, le sol appelle la dynamique d'une plante lignifiée. Donc voilà, la définition de l'arbre, enfin je ne sais pas si j'ai donné la définition de l'arbre du coup, mais en tout cas c'est la mienne, une plante géante bourrée de lignine qui rend plein de services et éventuellement ça fait de l'ombre.
Alors ces différents services, j'aimerais que tu les aies abordés, mais très rapidement. Oui. Parle-nous des services que rend l'arbre pour qu'on puisse se l'approprier, qu'on puisse aussi apprendre à l'aimer, le respecter et qu'on le voit différemment, parce qu'aujourd'hui, on l'a complètement banalisé.
Oui, un peu trop en tout cas. C'est-à-dire qu'on va l'adorer ou le détester, mais on va l'adorer pour des raisons purement esthétiques. Du coup, ça suffit pas. Mais peut-être je peux l'illustrer par un autre exemple agroforestier. Hein, qui est un exemple que j'ai déjà utilisé, mais là tout de suite j'ai envie de parler de l'œuf agroforestier. Ça vous irait si on parle de l'œuf agroforestier? Je vais vous expliquer à toi en particulier et à tous les auditeurs en général, n'est-ce pas? Si je prends mon œuf agroforestier, je vais donc avoir, puisque c'est là aussi une préoccupation importante. Il y a la condition animale, il y a le bien-être animal, il y a le bien-être végétal, il y a tout un tas de mouvements, pour pas dire de courant ou de mode, mais il y a tout un tas de mouvements qui se posent des questions de savoir ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils vont en manger pendant longtemps, est-ce que voilà. Et donc l'œuf est un peu entre les deux. L'œuf est un petit peu entre les deux. Donc si je veux faire des œufs agroforestiers, c'est assez simple au demeurant, parce que l'agroforesterie, avant même les Romains, on la pratiquait déjà. On l'a certainement pas inventée. Hein, on l'a juste remis en scène parce que parce qu'on est des paysans avant tout et qu'on en a besoin. Faut être honnête. Hein, on a besoin de l'arbre. Donc et si on faisait avec, si on combinait avec, ce serait pas mal. Mon œuf agroforestier, il va dire que j'ai un parcours. Un parcours arboré en l'occurrence, puisque j'ai 800 poules, je fais des œufs, j'ai un réseau de clientèle, puis je distribue dans deux magasins, donc j'ai 800 poules sur 2 hectares, ce qui est bien. Donc j'ai de chaque côté de mon parcours une haie champêtre pour protéger des vents dominants, et puis au milieu de mon parcours, je vais planter une centaine d'arbres. Alors je vais planter des arbres pour faire un peu de paillage pour mes animaux, des arbres têtards avec des branches. Je vais planter des arbres fruitiers, comme ça je fais des œufs, puis je fais aussi des noix et des noisettes. Hein, cette idée de culture permanente, de permaculture et d'agroforesterie, c'est l'optimisation des ressources. Qu'est-ce que ferait la forêt là où j'ai mis mon poulailler, qu'est-ce que ferait la forêt? Si j'essayais de planter presque autant d'arbres, ce serait bien. Donc du coup... l'arbre, et du coup je prends l'œuf agroforestier, mais je pourrais prendre la vigne, pour ceux qui boivent encore du vin, parce qu'il y a des études qui nous montrent, même si apparemment les études sont très mal étayées, que c'est pas bon la santé, enfin, moi j'en ai encore bu à midi, hein, tant pis, mais ce serait la même chose avec de l'herbe, la même chose avec du soja, ou une autre culture. Mon œuf, et ma poule surtout, elle va être protégée des intempéries, on va les appeler comme ça, mais dans la nature, il fait toujours trop chaud, trop froid, ou trop de vent ou trop de pluie. Donc l'arbre est bien le premier amortisseur du climat. C'est lui qui va prendre la grêle, la foudre, le vent, le chaud et le froid. Dans mon parcours, quand il fait chaud, j'aurai toujours 2 degrés de moins. Quand il fait froid, j'aurai 2 degrés de plus. Donc déjà... par rapport au confort, au bien-être, animal ou végétal, il va être extrêmement utile. Il amortit, et en amortissant, il s'ancre dans le sol et il produit. Ça, c'est le premier élément. Mais ça veut dire qu'en équipant correctement mon parcours, je vais permettre à la poule d'utiliser pleinement ce parcours. Parce que si je laisse mes animaux dans un bâtiment en plein vent, jusqu'à 9 cas sur 10, les animaux ne vont pas sortir. Donc ils vont stresser, ils vont être mal à l'aise, ils vont passer leur temps à essayer de se picorer ou de manger, de gaspiller de l'aliment. Un animal qui peut sortir, le réflexe naturel, la poule, elle va aller manger de l'herbe, elle va aller manger des vers de terre, elle va aller manger des insectes. Et tu l'as peut-être déjà vu, une poule agroforestière, dès qu'elle peut, elle va sauter pour attraper la feuille. Parce qu'elle va voir là-bas un frêne, et elle sait très bien que la feuille du frêne est extrêmement riche et en plus bourrée de substances médicamenteuses. Donc il y a une automédication de l'animal parce qu'il a encore le réflexe de savoir quel fruit, quelle plante ou quelle baie va lui être utile. Ça veut dire que du coup... grâce à l'arbre, je vais produire un œuf dans lequel j'ai tout un tas d'éléments nutritifs qui viennent des vers de terre, qui viennent des insectes, qui viennent de la feuille, du fruit, de la baie et de l'herbe. J'ai pas que du blé. Hein, comment on dit d'ailleurs une poule, c'est comment? C'est un truc qui mange de tout, quoi. Hein. Mais ça mange probablement. Ça mange pas que du grain. Et donc cet œuf-là, quand je vais regarder les oméga, ils seront omniprésents, j'ai un jaune très ferme qui se tient bien. Donc mon arbre, sur la qualité du produit que je vais faire, il est extrêmement important. Donc j'ai la condition climatique, tu sais ou tu sais pas, mais un animal qui est stressé, il développe des toxines. Et ces toxines, on les retrouve systématiquement dans les produits ou dans les coproduits. Après, mes poules vont sortir, elles vont être en plein air. Il va y avoir un truc qui s'appelle les déjections. Bon, moi, quand on était jeune, j'appelais ça de la merde de poule, mais aujourd'hui, on appelle ça des effluents d'élevage. Bon, le vocabulaire change, la matière pas trop. les effluents d'élevage disséminés dans le parcours, au lieu d'être lessivés sur un parcours qui serait nu, parce que 800 poules sur 2 hectares, si elles sont toujours au même endroit, le parcours est compacté, tassé, le sol est, on dirait, du... C'est où ? C'est Roland Garros qui est sur terre battue, parce que moi je suis pas trop le sport et pas trop le tennis, mais bon, c'est, on dirait de la terre battue, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc une merde de poules sur la terre battue, au premier orage, ça part à la rivière. Enfin, pardon, au fossé, à la rivière, au fleuve et dans les estuaires. Là, mon parcours diversifié, planté d'arbres, avec de l'herbe, bah, tout ça, ça va pomper les effluents et ça va faire pousser les arbres plus vite. Donc sur la question de l'eau, de l'infiltration dans l'eau, dans le sol et de du recyclage des déjections et notamment des nitrates, hein, je suis bon aussi. Voilà. Et, après, je peux regarder la question du climat. J'ai des arbres, donc je stocke du carbone, une grosse quantité de carbone. En mettant des arbres sur 2 hectares de parcours agroforestier, je crée un microclimat. Le climat, c'est quand même un assemblage de microclimats. Je peux vous dire qu'on a mesuré que si on faisait des systèmes agroforestiers et des sols couverts partout dans la France, on stockait toutes les émissions de gaz à effet de serre, enfin de gaz carbonique, pardon. Toutes les émissions de gaz carbonique de la France peuvent être stocker et compenser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les réduire, au contraire. Je dis juste qu'aujourd'hui, en 2018, en agriculture, si on couvrait tous les sols, si on arrêtait de les travailler, et si on plantait des arbres au bord des fossés et entre les champs sur une maille de 15 hectares, ce qui est encore grand, on pourrait compenser toutes nos émissions. Donc, la marche pour le climat, il faut que ça devienne une marche pour l'agriculture et pour les sols fertiles et couverts. Je reviens à mes œufs, si tu le veux bien. Donc, après, je prends la case poule. Biodiversité. Déjà, j'ai un paysage qui produit des insectes. Ça, c'est extrêmement important. Nos paysages ne produisent plus d'insectes. C'est un peu comme les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries et champignons, à la base de nos chaînes alimentaires, puisque c'est comme ça qu'il faut parler, si on veut être un peu sérieux. Hier, je suis allé, c'est pas toujours, mais là, j'ai pas le choix, parce que pour aller à côté d'Angers en train, il me faut 8 jours, donc j'y suis allé en voiture. Je suis redescendu, mon pare-brise est propre, il n'y a pas un insecte. J'ai fait 480 km, je crois. Je n'ai pas un seul insecte sur mon pare-brise. Nos paysages ne produisent plus d'insectes. Dans mon parcours de poule agroforestière, je produis des quantités d'insectes invraisemblables. Mais je produis et je nourris, puisque je vous ai bien dit que j'avais une haie de part et d'autre, et puis au milieu, j'avais des noisetiers, des noyers, quelques chênes, quelques érables pour le bois broyé et ou pour la litière. Mais là, j'ai des ressources de nectar, de miella, de pollen, de propolis, invraisemblables pour les pollinisateurs. Mon parcours agroforestier me permet d'installer 10 ruches. N'est-ce pas ? Hein ? Et du coup, je peux continuer comme ça à emboîter les bienfaits. Celui qui nous préoccupe le plus parce qu'il y a une urgence, aujourd'hui, on s'est rendu compte. On a parlé du remembrement. On a enlevé les arbres, on a enterré les arbres, on ne savait pas quoi en faire. On avait du mal à les brûler avec les pneus et l'huile de vidange. Il y a des zones où on a enterré des arbres. Aujourd'hui, il y a une guerre effrénée sur la biomasse. Aujourd'hui, on monte des unités de chaleur dans les écoles, dans les mairies, dans les maisons de retraite, dans les grosses entreprises. Il y a des très grosses entreprises à Toulouse qui rendent plusieurs semi-remorque de bois tous les matins pour chauffer les usines ou chauffer pour faire de l'eau chaude, puisqu'on utilise beaucoup d'eau chaude, etc. Donc le bois énergie, puisqu'aujourd'hui le bois broyé ou le bois en pellette, hein, ça redevient un produit. À une époque, on sortait des magasins avec des bidons de pétrole, aujourd'hui on sort des magasins avec des sacs de pellette. Hein. Donc, et des unités de chaleur et de, comment on appelle ça, de la cogénération, c'est-à-dire qu'on fait avec la chaleur, avec la vapeur d'eau, on fait de l'électricité. Ça consomme énormément de ressources. Donc on se retrouve dans un contexte où on n'a plus beaucoup d'arbres champêtres. La forêt, elle s'agrandit, mais pas tant que ça. On fait des coupes à blanc pour récupérer. Mais dans mon parcours agroforestier, avec mes arbres têtards, un arbre têtard, ça produit de plus en plus de biomasse en ayant une biodiversité très riche. L'arbre têtard, il vieillit plus que celui qui ne l'est pas. Alors c'est un arbre qui est étêté, qui est taillé, tel le solosier. Le solosier, on le taille tous les ans pour la vannerie. L'arbre têtard, il est étêté tous les 3, 4, 5, 6, 7 ans. On coupe toute sa tête, on prend toutes les branches et il repousse encore plus vite. La tête se creuse, elle est très riche de cavités, donc de biodiversité, de champignons, parfois d'amphibiens et tout un tas de plantes composites, des chauves-souris, etc. Donc du coup, au-dessus de mes poules, j'ai des fruits. C'est-à-dire que je ramasse raisonnablement de noix que je valorise dans les circuits dans lesquels je suis. Je ramasse aussi du bois. Et puis j'ai, puisqu'on est beaucoup là-dessus, j'ai la satisfaction du travail accompli, n'est-ce pas? Mais quand je suis producteur, mon métier, notre métier aujourd'hui, c'est devenu de mettre des indicateurs. Parce qu'en agriculture, on parlait beaucoup. Et nous, association d'agriculteurs, en France, on fédère 16 000 agriculteurs, hein, donc ça commence à peser un petit peu. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'indicateur de résultat. Dire que chacun y allait de son couplet, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure ironiquement, mais moi je produis tant, moi je fais ça, moi j'ai 80 quintaux de blé. Mais on n'avait jamais regardé combien ça coûtait à produire, avec quels intrants, avec quels dommages collatéraux, hein, parce que oui, on produit 80 quintaux de blé, mais... Il y a une énergie fossile qui est monumentale, et il y a des pesticides qui fuient directement, des engrais dont l'efficience reste à prouver. Donc on a mis des indicateurs très précis. Donc dans toutes les agricultures, hein, parce qu'on les, on les oppose pas, il faut toutes les faire progresser. Le bio doit énormément progresser vers l'agroécologie et le conventionnel aussi. Et ça aujourd'hui, heureusement, les agriculteurs se coopèrent, se parlent. Les deux sont, on va dire gentiment, sont bourrés de défauts. Donc du coup, dans les deux agricultures, on perd dans 95% des cas de la matière organique. En bio comme en conventionnel, tous les ans, dans 95% des cas, les agriculteurs perdent de la matière organique. Donc ils perdent de la fertilité, donc ils perdent du capital, donc ils vont inéluctablement vers des problèmes importants. Au-delà des baisses des rendements. Il semblerait que l'agriculture soit un sujet de société et que l'agroforesterie aussi. Voilà, donc du coup, nous sommes un peu... Tout à l'heure, j'ai parlé de l'agroforesterie comme maillon d'une chaîne, un maillon important, mais un maillon. Donc nous, on est des courroies de transmission. Nous, à Arbres et Paysages 32, ben, on fédère un petit peu tous les agriculteurs. Celui-là a planté telle année, celui-là va équiper son poulailler, celui-là va planter en plein champ, celui-là est en bio, celui-là est en conventionnel, celui-là est en train de s'installer, celui-là hésite. Ils se rencontrent, et puis eux, ils se rencontrent, et nous, on se rend compte qu'ils ont tous des petites choses. Ils ont fait des petits essais par-ci, des petits essais par-là. Ils ont bien vu que les sols, ils se barraient, que les rivières étaient gorgées de boue. C'est pas tenable, cette situation-là. Et donc, du coup, on réagrège toutes ces petites choses-là et avec des techniques d'agroforesterie, de couverts végétaux, on fait progresser, mais il faut être modeste. Les agriculteurs, une fois qu'ils sont lancés, une fois qu'ils ont l'état d'esprit, et c'est là où je voulais en venir avec mes œufs, parce que je n'ai toujours pas fini mes œufs, hein, c'est aussi l'idée, on parle du bien-être animal, du confort, mais il faut aussi penser au bien-être de l'agriculteur, à la volonté que d'y aller. Est-ce que produire, c'est un acte punitif? Ou est-ce que produire, c'est un acte salutaire, avec derrière des consommateurs qui sont bien nourris, qui sont fiers, qui sont heureux de venir. Et un agriculteur, même, j'insiste, mais même ceux, on dirait lui, il s'en fout des arbres, lui, il s'en fout du cadre de vie, lui, la formule chez nous, c'est dire c'est un rudos, mais je pense qu'elle est compréhensible partout francophone, n'est-ce pas? Lui, c'est un rudos. Mais le rudos, celui qu'on croit être le rudos, c'est le premier à dire « Ah, putain, Alain, quel plaisir, j'ai vu les alisiers, il y a des alises, je vois que les grives reviennent. » Une espèce de plaisir de voir ces végétaux s'épanouir, produire, fleurir, pousser, faire ce qui s'appelle la photosynthèse dont on est encore, sur lequel on est encore assis. On est encore assis sur le pétrole, on est encore assis sur le gaz et sur le charbon. Aujourd'hui, on est encore, il y a un peu de nucléaire et un peu d'hydroélectricité par-ci, par-là, et quelques énergies diverses. Mais globalement, on est encore assis sur un puits de photosynthèse. Hein, issus des forêts et des forêts ancestrales. Donc aujourd'hui, il faut qu'on remette la machine photosynthétique en place. Dans l'Hexagone, c'est la copie qu'on avait rendue à la COP21, elle était plutôt bien appréciée et pas du tout contredite. On a démontré qu'on manquait au-delà de la forêt, puisque la forêt en France, je crois qu'elle représente 24% du territoire, hein, de mémoire, au-delà de la forêt, elle représente 24%, c'est très bien, on ne va pas boiser la France, puisque si on boise la France, on aura du mal à produire des patates, du blé et autres denrées alimentaires. Par contre, agroforester la France, Je dis pas ça parce que c'est mon métier. Hein. Je dis qu'agroforester la France, c'est-à-dire de, à la fois de faire des arbres, protéger les cultures et les animaux qui sont dessous. En tout cas, on a montré que le carbone qui était stocké par an en France, en agriculture, il fallait impérativement, rapidement, le multiplier par deux. Et en le multipliant par deux, on ramenait de la fertilité. Du coup, on parle d'auto-fertilité. Hein, la plante qui va elle-même nourrir le sol, on va ramener de la fertilité dans les sols. Et ça tombe bien, des sols fertiles, ça fait des plantes qui sont en bonne santé. Et des plantes qui sont en bonne santé, ça tombe bien. On n'a pas besoin de leur mettre des béquilles pour qu'elles poussent.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.